franceinter.fr.
Salut Daniel, est-ce que tu savais qu'on a perdu la guerre en 40 à cause des Anglais? Ben je te l'apprends. J'ai vu l'émission d'FR3 hier sur Édouard VIII, et tu sais pas ce qu'il a fait? Il a visité les positions françaises lors d'une visite, il a noté qu'elles étaient faibles, il a envoyé une lettre à Hitler en lui disant « faut attaquer par là », et Hitler a attaqué par là, et on a perdu la guerre. Ces Anglais sont des traîtres.
La droite est vent debout contre la GPA, autrement dit les mères porteuses, ce que personne ne propose par ailleurs. Mais j'arrive pas à comprendre. La GPA, c'est la marchandisation des corps. C'est l'exploitation des plus pauvres au profit des plus riches. Obtenir ce que l'on veut par tous les moyens, au mépris de la morale, de l'éthique et même parfois de la loi. Donc, la GPA, c'est typiquement néolibéral. Alors pourquoi la droite est contre la GPA?
Qui se souvient qu'il y a 40 ans, le Maroc envahissait le Sahara occidental? Depuis, deux générations n'ont jamais connu leur pays qu'occupé. En octobre 2010, un camp de protestation avait été établi par les Sahraouis à Dimizik, à l'est de Laayoune, la capitale. Le 8 novembre 2010, l'armée marocaine est intervenue avec véhicules et hélicoptères et a donné un quart d'heure aux 20 000 personnes présentes pour évacuer le camp avant de l'incendier. S'en sont suivis actes de résistance, violences qui ont entraîné des morts et blessés de part et d'autre. Il y eut de nombreuses arrestations. 24 détenus sahraouis ont été torturés et croupissent depuis dans la prison marocaine de Salé, à côté de Rabat. Après plusieurs convocations à l'aéroport, leur procès s'est ouvert le 1er février, à Rabat, dans des conditions qui laissent tout craindre. Tribunal militaire, violation des droits de l'homme dans l'établissement des éléments à charge, et notamment l'utilisation de la torture, absence du respect des droits de la défense dans la discussion des preuves, interdiction à une partie des familles des inculpés et aux représentants d'ONG de défense des droits de l'homme de pénétrer dans la salle d'audience, campagne médiatique mensongère. La France ne bouge pas. Au contraire, elle a fait pression, heureusement en vain, pour que soit annulée une conférence sur le respect des droits de l'homme au Sahara occidental qui s'est tenue au Sénat samedi dernier. Peut-être que grâce à « Là-bas si j'y suis », un peu d'attention sera portée sur ce procès inique. Salut Daniel.
J'appelle pour adresser mes condoléances à tous les démocrates et révolutionnaires tunisiens après l'assassinat contre Choukri Belaïd. Et à travers lui, c'est tous les révolutionnaires tunisiens qui sont visés. On retombe sur la réalité, le principe de réalité qui est que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui bénéficient, qui profitent, qui... Ben, ils ne vont pas lâcher leur prébende comme ça.
Daniel et toute l'équipe de là-bas si j'y suis et tous les camarades des repères, j'appelle de Marseille à côté de la mer, la grande mer Méditerranée qui est ce trait d'union entre cette grande ville et puis tout le Maghreb et puis la Tunisie aujourd'hui. Je suis dans la forte émotion du drame qui vient de secouer, qui secoue la Tunisie. Comment résister à la colère, comment résister à l'envie de vengeance, à la révolte quand on est frappé comme ça. J'en appelle à l'instinct humaniste qui m'habite et qui nous habite tous, nous gens de gauche, nous gens d'une espérance. Et que cette espérance, elle nous oblige aujourd'hui à rester debout, à rester vaillants et à envoyer, à montrer à la Tunisie qu'on est là, qu'on est à côté d'eux, dans cette démocratie naissante, pour les soutenir. C'est notre devoir. Merci Daniel. Et ton rire, quelquefois, apporte beaucoup de sagesse dans les mois. Je te remercie.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, très ému, vous l'entendez, suite à l'assassinat du leader du Front populaire de la gauche radicale tunisienne, Choukri Belaïd, hier matin, assassiné par balle alors qu'il sortait de son domicile à Tunis. Je vous renvoie à l'émission qu'on a consacrée hier à cette émotion qui s'est emparée du pays et bien au-delà du pays et qui pose de nombreuses questions, à commencer par qui avait intérêt à tuer cet homme, Choukri Belaïd, un homme très populaire, très aimé, un contestataire, un véritable opposant, un homme libre, dont la parole était libre, qui a eu intérêt à l'assassinat de Chokri Belaïd qui a commandité cet assassinat. Immédiatement, évidemment, les doigts se sont dirigés en direction de Nardal, le parti islamiste au pouvoir, et notamment vers la Ligue de protection de la Révolution, qui est une véritable milice, qui est déjà accusée d'un assassinat politique contre un leader modéré il y a 3 mois à Tataouine. On a évidemment montré du doigt également évidemment les milieux salafistes, mais pour l'instant, rien n'est très précis. On se demande qui a intérêt, à qui rapportera ce crime. L'enterrement de Chokri Belaïd aura lieu demain après-midi à Tunis. On a choisi de revenir un peu sur l'histoire, parce que là on est dans l'émotion, mais c'est bien de revenir un peu, prendre du recul dans ces moments-là, et voir un peu qu'est-ce que c'est que ce pays, cette Tunisie qui pour beaucoup est apparue il y a 2 ans avec l'euphorie de la révolution du jasmin, la révolution Facebook, et puis ben non, évidemment la Tunisie a une histoire. Et une histoire de la contestation, et une histoire de la lutte sociale. Et on va aller à Gafsa, exactement à côté de Gafsa, à Redeyev, dans le bassin minier, une zone toujours délaissée par les pouvoirs successifs, vous l'entendrez. Mais d'où est partie, bel et bien, cette révolution, non pas il y a 2 ans, mais il y a 5 ans. C'est ce que vont nous raconter les gens de Redeyev, c'est ce que vont nous raconter les militants, les syndicalistes qui, dans cette ville, sont totalement abandonnés par le pouvoir actuel. On aura comme ça une idée de la crise, non seulement politique, mais sociale, qui secoue ce pays. Mais aussi, on le verra, l'acharnement, les luttes acharnées des Tunisiens, des profondeurs, pour la justice, pour les salaires, pour l'emploi, pour le développement, pour l'égalité entre les régions. Bref, des gens debout, des gens qui luttent, dont l'un d'eux a été abattu hier. C'est notre sujet du jour. Hier après-midi, hier soir, il y avait une manifestation à Paris devant l'ambassade de Tunisie. Les Tunisiens de Paris et d'ailleurs étaient venus nombreux exprimer leur colère, leur deuil, leur peine, leur rage, leur envie de continuer le combat. C'est vraiment ça dont il s'agit. Il y a 600 000 Tunisiens qui vivent en France et quelques-uns d'entre eux étaient hier devant l'ambassade de Tunisie.
Là, il y a un grand rassemblement devant l'ambassade de Tunis pour la mort de Chokri Belaïd. Et il y a un monde fou. Voilà, il y a des personnes là-bas qui brandissent des pancartes, des drapeaux tunisiens, évidemment. Vous brandissez une pancarte ?
Oui, je suis de la race des guerriers. Ils peuvent me tuer, mais ils ne me feront jamais tirer terre. Je préfère mourir pour mes idées que des lassitudes et des vieillesses.
C'est signé Chokri Belaïd.
Oui, qui est mort aujourd'hui. Moi, je suis là en tant que citoyenne tunisienne, parce que j'estime aujourd'hui que la sécurité de chaque concitoyen tunisien n'est plus assurée, au-delà du fait que ce soit une personne politique ou un citoyen. Aujourd'hui, cet État a perdu toute légitimité. Il n'a pas su garantir les fondamentaux de l'État de droit lors du passage d'une dictature à une démocratie, et c'était ça leur responsabilité. C'était de savoir quand même garantir les fondamentaux d'un État de droit, car un État, c'est quand même un organe qui reste légitime. Et ils ont décrédibilisé l'État aujourd'hui pour eux et pour les futurs gouvernements.
La place est absolument pleine. Les gens sont pressés les uns contre les autres au milieu des drapeaux tunisiens.
C'est un avocat du barreau de Paris qui est solidaire avec ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Il condamne fermement ce qui s'est passé ce matin. Il faut continuer les combats, il faut continuer pour la liberté du peuple. Et la liberté de la femme, la liberté individuelle. Il condamne les islamistes avec tout ce qui se passe ces dernières semaines, des violences contre la société civile, les hommes et les femmes politiciens en Tunisie. Et tout ce qui se passe contre la gauche tunisienne, des violences, des barbaries, et de la part de milices, de partis islamistes Nahda, avec la protection des Nahda contre la liberté des femmes et les libertés individuelles. Il faut qu'il y aura une enquête le plus tôt possible et qu'elle donne des résultats. Quoi qu'il arrive, qu'il passe devant la justice tunisienne, et s'il fallait, devant la justice internationale.
Ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'il faut que le peuple garde le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur des islamistes ou de qui que ce soit. Ce qui est le plus dur, les franchis. Tant qu'on a fait tomber Ben Ali, on ne va pas avoir une deuxième dictature sur le dos. Et il faut garder, parce que la démocratie, c'est une vie quotidienne, il faut garder sa liberté, il faut se battre pour sa liberté, il faut garder cette liberté.
Ça pesantit toujours dans les médias sur le terrorisme islamiste. J'avoue qu'il fait assez froid dans le dos. Mais franchement, est-ce que vous avez vu l'intolérance? Est-ce que vous avez vu la façon, l'agressivité des cathos contre le mariage pour tous? Non mais franchement, c'est absolument terrifiant. Alors les gens ne se rappellent pas, moi bon j'ai 70 ans, hein, mais on était complètement dominés par les valeurs catholiques hein, dans notre enfance. Hein. Il fallait faire signer nos petits carnets selon lesquels nous, on était allés à la messe, etc. Plus les confessions, enfin bref. Donc franchement, la religion catho, elle est retardataire. Hein. Bonjour. Hier soir, j'ai regardé sur France O la colère des ouvriers en Asie. En Chine, il n'y a qu'un syndicat pas très indépendant. Salaire, 200 euros. Les patrons chinois délocalisent au Cambodge. Divers syndicats sont tolérés par l'État. Salaire, 50 euros. Ou au Bangladesh, salaire 35 euros. Interdiction des syndicats. Les patrons fixent les salaires avec l'État. Alors il ne faut pas s'étonner de la répression exercée au mouvement spontané des grévistes, à coups de matraques et se terminant parfois par des morts. Plus bas de l'échelle des salaires restent les prisonniers. Aux États-Unis, ils sont 2 millions, salaire zéro. Avant d'acheter nos vêtements, regardons les étiquettes chez Carrefour, Célio, ACL et autres magasins.
Samedi matin, les CRS et les policiers croient qu'ils sont encore sous le régime de Papon. Parce qu'il y avait des jeunes qui étaient assis, enfin qui étaient debout sur un trottoir devant un squat. Et il y a des CRS qui arrivent. Le commandant des CRS leur demande de partir. Il n'a même pas terminé sa phrase qu'il commence à charger. Ils mettent des coups de matraque, d'une violence absolument incroyable sur des jeunes qui ne sont absolument rien. Et donc des coups de tonfa en plein visage sur des jeunes filles, des jeunes garçons. Il suffit de taper... violence policière, squat et Rennes dans un moteur de recherche. Et il y a cette vidéo qui est de très bonne qualité puisqu'elle a été tournée par Rennes TV.
Pour vous, Ayet, la révolution tunisienne s'est produite quand ?
5 janvier 2008.
5 janvier 2008, voilà.
La différence entre l'époque de Ben Ali et l'époque d'après la révolution, c'est qu'avant les choses étaient claires. Il n'y a pas de boulot, tu peux te casser la tête contre un mur. Alors que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de promesses, mais on ne voit rien dans la réalité. C'est-à-dire, dans tous les cas, avant Ben Ali ou après Ben Ali, casse-toi la tête contre un mur.
La différence, c'est qu'au temps de Ben Ali, on n'aurait pas parlé comme ça tranquillement. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre tout ça? Vous allez vous bouger quand même. Vous n'allez pas être des victimes comme ça toute votre vie.
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Guy Van Thiel et Anaël Verzo. Tunisie, assassinat d'un démocrate. Chokri Belaïd.
Pour donner envie aux Français de revenir en Tunisie pour le tourisme, je me demande si on a choisi le meilleur endroit.
C'est l'autre Tunisie.
C'est l'autre Tunisie.
Celle qu'on ne trouve pas sur les affiches, mais celle qui est vraiment profonde, chaleureuse, le cœur grand, comme celui des mines de ce coin.
Et... de Gafsa, parce qu'on est à Gafsa. Et les mines, c'est les mines de phosphate. Il y a du vent, il y a de la poussière. On est dans une terrasse au coin d'un carrefour, très très bruyant. Mais on est venu là parce que c'est là que la révolution a commencé.
Oui,
pas
oui.
Tout à fait Gafsa, mais enfin c'est dans la région.
Dans le bassin minier, absolument. La région est d'ailleurs marquée par des longues luttes de par le passé, mais en 2008, et notamment pas loin d'ici, du côté d'Erdeï et fait des bassins miniers, il y avait une grande révolte populaire pour l'emploi, contre la corruption, pour le développement. C'est exactement les mêmes thématiques qui ont été portées par la révolution par la suite du 17 décembre au 14 janvier. Et la population du bassin minier s'est révoltée pacifiquement du 5 janvier 2008 jusqu'au juin 2008, pendant 6 mois, longs mois.
Voilà, parce que là, on est là pour célébrer à la fois le deuxième anniversaire de la Révolution et pour dire la Révolution 2 ans après. Mais à chaque fois qu'on dit ça, la Révolution 2 ans après, tu dis non, c'est 5 ans la Révolution. Pour toi, par exemple, Kamel, et pour d'autres, la révolution tunisienne, c'est 2008.
Rétrospectivement, oui. La révolution a commencé ici, en 2008. C'est évident. En tout cas, le début de la fin du régime de Ben Ali. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que toute une population, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vieillards, se révolte pacifiquement, s'organise et faisait face au tout-puissant régime policier de Ben Ali, mais simplement c'était quelque chose qui était limité à cette région-là. Le régime a réussi en quelque sorte à contenir le mouvement dans cette région-là. Il n'y avait pas le Facebook qui relayait en quelque sorte ce qui se passait. Et puis surtout, il n'y avait pas, je dirais, des relais dans les villes. Nous sommes dans la profondeur de la Tunisie, on n'est pas sur les côtes. Et c'est vrai que bon, le régime a réussi à la contenir pendant 6 mois. Et il y avait un mouvement de solidarité absolument important, mais il était quand même un peu confidentiel, il faut le dire, même si l'UGTT, la glorieuse UGTT, a aussi apporté un soutien important dans d'autres régions. Il ne se passait pas une réunion de l'UGTT de 2008 à 2011 sans qu'on ne parle de cette région-là. Donc voilà.
Il fallait beaucoup de courage et beaucoup de colère en 2008 pour sortir du placard. Hein.
Ah oui. Oui, c'est vrai, d'autant plus que 2008, c'est quand même un an après que le dictateur Ben Ali fêtait ses 20 ans. Donc il était en pleine puissance. Et c'est vrai, la peur, parce que le système policier avait pour rôle, pour mission d'isoler les Tunisiens pour pouvoir les combattre, les harceler et puis les contenir. Bon. Mais personne n'imaginait que Ben Ali allait partir et que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire que...
Même pas Madame Alliot-Marry.
Même pas.
C'est dire.
Ça, c'est extraordinaire.
Madame Alliot-Marry qui proposait de faire bénéficier le régime de Ben Ali de l'expertise française en matière de policière.
Police. Ben oui, il fallait donner un petit coup de main à nos amis tunisiens qu'on avait tellement soutenus.
On avait armé, qu'on avait équipé, qu'on avait formé. Et maintenant, il fallait un peu plus d'encadrement pour pouvoir gérer les manifestants et les troubles à l'ordre public.
La gauche comme la droite française, on peut dire, ont soutenu loyalement Ben Ali.
Bon, on reprend la route ?
Allez, on continue.
Éric Raoul, vous êtes aussi membre du groupe d'amitié France-Tunisie à l'Assemblée nationale. La réélection dimanche dernier du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali avec près de 90% des suffrages, vous a-t-elle réjoui ?
Oui, parce que c'est un pays stable.
Éric Raoul ?
Oui, parce que c'est le pays où la classe moyenne est en progression.
3 novembre 2009.
Oui, parce que c'est un pays qui est ami de la France. Et je serais tenté de dire à ceux qui disent en persiflant, en ironisant, 90%, d'ailleurs un tout petit peu moins, 89%.
J'ai dit près de 90%.
Près de 90%. Bon, ben, incontestablement, en Tunisie, beaucoup de gens aiment le président Ben Ali.
Bien, je suis ici à Tunis ce matin après avoir été à Tripoli hier. Je ne voulais pas repartir
avant de passer par Tunis, rencontrer le président Ben Ali, et puis rencontrer aussi les responsables économiques du secteur public et du secteur privé.
Dominique Strauss-Kahn.
Pour leur dire deux choses.
18 novembre 2008.
La première, c'est que l'économie tunisienne va bien, malgré la crise. La crise frappe l'ensemble du monde, mais je m'attends à une croissance économique pour la Tunisie qui sera forte encore cette année. La politique économique qui est conduite est saine. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents, comme la Tunisie.
Une étreinte diplomatique et un signal politique fort. Aujourd'hui, Jacques Chirac apporte au président Ben Ali tout le soutien de la France. Et sur fond de terrorisme international, montre la Tunisie en exemple.
Le premier des droits de l'homme, c'est
Jacques Chirac,
de manger, d'être soigné.
4 décembre 2003.
De recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance.
Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse.
Nicolas Sarkozy.
Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer.
29 avril 2008.
Et je ne vois pas au nom de quoi je me permettrais dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m'ériger en donneur de leçons.
Madame la ministre, comment justifiez-vous cette incohérence de notre pays lorsque d'un côté la France appelle au respect de la démocratie en Côte d'Ivoire et que de l'autre elle soutient de manière indéfectible la dictature de Monsieur Ben Ali?
Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type.
11 janvier 2001.
Sourire les uns et les autres, Jacques, Dominique, Nicolas, Eric, Michel. On l'avait bien dit, hein. On s'est moqué de nous, on a ironisé. N'empêche que c'était mieux avant, hein. C'était quand même mieux avec Ben Ali. On l'avait bien dit, ce qui se passe en ce moment, là, voyez. Ben voilà, Ben Ali, c'était le rempart contre l'islamisme, et oui, et puis ça marchait bien, l'économie marchait bien, le tourisme marchait bien, les investisseurs se précipitaient, les Tunisiens mangeaient à leur faim. Oh, bien sûr, c'était pas la démocratie comme dans des pays civilisés, comme le nôtre, mais enfin, ça marchait pas si mal que ça, pas comparé avec certains pays voisins. Mon gars. Non, c'était bien dans ce temps-là. Et voilà, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est le chaos, c'est la tension, c'est... Eh oui, je sais pas si vraiment les uns et les autres se disent ça entre eux, s'appellent pour se dire ça entre eux actuellement. En tout cas, au cours de ce reportage en Tunisie, à chaque fois qu'on a entendu la colère, la rage, la frustration, le mécontentement s'exprimer, régulièrement on a dit « alors ça veut dire que c'était mieux avant ». Ah ça non ! Personne, on a trouvé personne pour nous dire « c'était mieux avant ». Non, certainement pas, tout sauf Ben Ali, quand même, on en est encore là. Parmi ceux qui nous ont parlé, ceux qui regrettent Ben Ali ou qui sont toujours de ce clan-là, évidemment, ne se précipitent pas sur le micro de là-bas si j'y suis pour nous dire c'était mieux avant. Voilà où nous sommes aujourd'hui dans cette Tunisie frappée violemment, comme vous le savez. Et donc, nous voilà, vous avez compris, à Gafsa, à Redeyef exactement, où... Effectivement, selon les habitants, ils vont nous l'expliquer très, très précisément. Les choses ont commencé, la révolution a commencé en 2008. On va voir que la lutte était bien plus ancienne. Hier, suite à l'assassinat de Chokri Belaïd, vous le savez, il y a eu des manifestations, parfois très violentes, à travers le pays, et évidemment à Gafsa, et évidemment à Redeyef, là où nous allons aujourd'hui, les manifestations ont été très vives et très violentes. Face à quelle police? On ne sait pas, puisqu'il n'y en a plus. Cette région, notamment Redeyef, est à l'abandon, c'est-à-dire que l'État ne s'en occupe plus du tout, et c'est les habitants eux-mêmes qui se gèrent, qui s'organisent avec leur syndicat, l'UGTT, dont on vient déjà de parler, et qui continue le combat et qui continue cette longue lutte. On a trouvé des tas de causes à la révolution tunisienne. Il y en a effectivement sans doute de nombreuses de ces causes qu'on trouve toujours a posteriori. Il y a des causes à l'assassinat hier de Chokri Belaïd, ces causes qu'on trouve toujours a posteriori, mais il y a indéniablement dans toute cette histoire une revendication sociale extrêmement, extrêmement forte et non pas a priori que je ne sais quel clivage de nature culturelle ou de nature religieuse. C'est avant tout une marche et une exigence pour l'égalité, contre la corruption et pour le développement de ces régions à quoi s'acharnent depuis si longtemps les habitants de cette région et de ces régions en particulier. Et cette heure, évidemment, est dédiée à la mémoire de Chokri Belaïd. C'est là-bas, si j'y suis, c'est jusqu'à 16h.
Tous les groupes intégristes, quand ils tiennent le pouvoir, ils le ne lâchent jamais qu'avec le sang.
تعرف التونسي فلان بن فلتان فينومين طايح لوف بالطليان يخلص 300 يسهر بسبعة ميان يبت جيعان اما يلبس السيان مزلق شعره كل سحته بقرة تعطي كاتالي ولي نمبر وان في الحجرة يموت عالبيس الفازات الكل جايبها عنده لكتافة ما عادي ما مغيبها التونسي جاء هاما جاء في جارية فريش يعودوا جارية باقي قلك ما عنديش بحترف في العلاقات العاطفية مسوح بزوز واحدة صباح واحدة عشية حكيت معاه قال لي بلاصتي مشهوري عشرة ملايين الكل يقولوا ظلموني من بواتا لبواتا تونسي ريق في الصح اما مهبول باللحن اللي فوق السطح تونسي 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 التونسي مضاربي اما ما عينوش في العرك جيتك ميسي قولك عنا الكور جاية باركة الكرة منقوبة ما ترشحناش للكوب دي موند خاطر الجوارات مضروبة فايبا تونسي جددت عليك خويا
لا يا بانو C'est vraiment un panneau de lutte, hein, avec les silhouettes, les drapeaux, etc. Et ça, c'est un épisode avec la lutte des femmes.
Le 9 avril, ils étaient arrêtés.
Le 9 avril 2008
2008, oui. C'est la première arrestation. C'est les femmes qui ils ont repris la lutte, revendiquant et demandant la libération de leur mari, de leur enfant et tout ça. Toutes les femmes de l'EDF étaient au centre-ville. Demandant la libération des prisonniers du bassin minier.
Combien ils étaient prisonniers 7, 8
Au début, seulement 7-8 prisonniers, le 9 avril. Et ce jour-là, on était entrés dans la clandestinité. C'est nous qui avons pris ces photos de cette manifestation. Donc, on était au centre de cette manifestation. Et cette photo, ça devient célèbre de cette.
C'est très beau. Oui. Ça représente une dame, une maman, là, d'un certain âge déjà, qui pointe le doigt comme ça, qui accuse. C'est vraiment j'accuse.
Qui exige la libération.
Ouais, ouais, ouais. Qui exige la libération.
Pendant ce temps-là, la salle,
voilà, la salle se remplit d'hommes et de fumée.
Gafsa est la ville la plus importante de la région industrielle du sud tunisien.
TF1.
80 000 habitants, 15 000 chômeurs. Les privilégiés travaillent dans les 4 mines de phosphate qui entourent la ville.
12 janvier 1984.
À Gafsa, 70% de la population a moins de 20 ans. Ce sont ces jeunes, bien sûr, qui sont les plus touchés par le chômage.
Il n'y a pas de, travail, il n'y a pas d'embauche. Ou bien, si l'immigration, ils sont contraints à l'immigration, en Libye ou à l'étranger, en Europe, mais l'Europe a fermé ses portes. Il reste seulement une seule possibilité, rester ici et lutter.
Et maintenant, est-ce que vous êtes satisfait par la situation actuelle après le discours de Bourguiba alors ?
Oui et non. Oui, parce que le peuple a besoin de manger, quoi. Non, parce que la foule qui est loin d'être politisée ne va pas continuer la lutte, la véritable lutte pour la démocratie.
Comment voyez-vous l'avenir ? de la Tunisie dans les années qui vont venir maintenant?
Oui, très mouvementé. Très mouvementé. Surtout par la lutte des clans au sein du pouvoir lui-même. Et puis des peuples qui a, après ces événements, il a eu confiance en soi, confiance dans sa force matérielle. Je vois les luttes d'avenir, ils seront encore plus forts.
Je m'appelle Haji Adnan, je suis syndicaliste ici à l'égalité locale d'EDF, l'un des encadreurs du mouvement social de 2008.
D'accord. On va essayer de se faire raconter un peu comment les choses se sont passées, parce qu'on est venu pour essayer de faire un bilan 2 ans après la révolution, et à chaque fois qu'on dit ça, Kamel dit « Non, c'est pas 2 ans, c'est 5 ans ». Alors on lui dit « Mais pourquoi c'est 5 ans ?» Alors il dit « Venez avec moi, je vous emmène à EDF ». Et là, vous allez savoir pourquoi c'est depuis 5 ans et non pas 2 ans. D'abord, nous dire un peu ce qui se passe ici. L'activité ici, c'est le phosphate, c'est les mines, dans une partie où il y a très peu de touristes en maillot de bain.
Il n'y a pas de tourisme ici. Ce n'est pas une région touristique. EDF, c'est une ville minière créée autour de la mine de phosphate. C'est la source de vie principale ici. Il n'y a pas d'autre activité, ni agricole, ni rien d'autre projet. Dans les années 60 et 70, il y avait 3500 ouvriers ici. Mais depuis 86, on a mis tout le monde à la porte. Et maintenant, actuellement, il y a 500 ouvriers. Donc la crise de chômage a commencé depuis 86, la crise aiguë.
D'accord.
Une situation difficile, oui, puisqu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de travail. Les jeunes ne trouvent pas de travail. Donc ils sont obligés de quitter la ville, de quitter la région, aller à Tunis ou à Sfax ou au Sahel, ou bien de quitter le pays clandestinement.
Oui, et de prendre des bateaux vers l'Italie.
Vers la France, etc.
Et voilà.
En 2008, on a 2 jeunes qui se sont enfouis dans un bateau qui transporte le phosphate. Donc, ils se sont trouvés morts dans le bateau. Donc, il y a une crise ici, une crise de chômage très, très aiguë dans cette région.
Voilà, nous voilà avec Haji Adnan, une grande figure de la lutte et de l'UGTT, un encadreur de mouvement, comme il se présente lui-même, pour nous expliquer les épisodes de cette lutte héroïque, parce que aujourd'hui, la lutte continue. Mais à cette époque-là, contre les forces de Ben Ali, les forces policières, l'omniprésence policière et tous les moyens de délation, de contrôle, de punition, d'arrestation, de torture contre les habitants. Il fallait énormément de courage, de détermination, mais de ruse aussi. Il fallait être très rusé pour arriver à gagner des points, à marquer des points contre un pouvoir pareil. Et c'est dire tout le courage qu'il a fallu, la solidarité qu'il a fallu et le talent qu'il a fallu dans cette lutte qui, encore une fois, véritablement est à l'origine. Alors, on ira dans les jours prochains dans une autre ville qui s'appelle Siliana, et là, ils nous diront, vous verrez, les habitants nous diront, non, la vraie révolution, c'est nous, c'était en 1990, 91, c'est ici que ça a commencé, etc. Alors, on peut remonter comme ça très loin. Mais pour la période récente, c'est indéniablement là que ça a commencé. C'est là que le mur a été ébréché. Voilà, la brèche est là, à EDF, c'est là qu'elle est apparue.
Ce qui a entraîné les événements de 2008, c'est le concours de recrutement des ouvriers à la compagnie de phosphate. Donc ce concours a été falsifié, a été corrompu. Donc la délibération des résultats a été le 5 janvier 2008. Ce jour-là, on a déclenché le mouvement social dans toutes les villes du bassin minier, à Mdirla, à Moudares et à EDF. Ici, on a commencé par un sitting ici à l'EGTT, une grève de faim. On a créé un comité de négociateurs. Ici, on a demandé, on a revendiqué d'annuler ces résultats et de refaire ce concours. Donc, ce mouvement a duré pendant 6 mois successifs, sans arrêt.
Avec donc, grève de la faim.
Des grèves de la faim, avec des manifs, avec des assemblées ici, avec des confrontations avec les forces policières. Puis ça a commencé à être plus large, plus profond. Donc on a revendiqué la partition des richesses, le développement ici, la question écologique, la question sanitaire, etc. et tout. Pour plusieurs problèmes, donc, a fini par la fusillade le 6 juin 2008. Donc, la police a tiré sur les manifestants et a tué deux jeunes. On a deux martyrs et 35 blessés.
Des arrestations aussi des responsables, vous avez été arrêté.
Des arrestations, oui, des centaines.
Des centaines d'arrestations.
D'arrestations, à peu près 300. Mais on n'a pas pu arriver à des résultats satisfaisants avec le régime de Ben Ali.
Alors, est-ce que vous voyez un lien entre ça et l'éclatement de la révolution en décembre 2010? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
Bien sûr, il y a un lien. C'est pour cela que nous revendiquons aujourd'hui de reconnaître le mouvement social du bassin minier comme étant le berceau de la révolution tunisienne.
C'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Oui. C'est pour ça que vous êtes tous là, réunis. Ils sont une vingtaine autour de nous. Bon, nous sommes le berceau de la révolution. La révolution est née ici.
Parce que la première chose, nous étions seuls ici, nous étions isolés. Toutes les forces policières...
Policières étaient avec vous.
Étaient contre nous.
Oui, enfin, je m'en doute.
Pour nous agresser, pour calmer nos voix, nos cris. Donc, le premier mouvement social en Tunisie qui a été un mouvement durable dans le temps, pendant six mois sans arrêt, jour et nuit. Hein, on a fini par que tous les habitants se sont convaincus que ces problèmes ne peuvent pas être résolus avec ce régime dictatorial de Ben Ali. Et puis à Benguerden, dans le sud tunisien, à Tataouine, pour revendiquer le droit de travail et le développement. Et puis est venu Sidi Bouzied et Kasserine, etc. Et a réparti dans tout le pays le mouvement social.
Donc si je t'écoute, la révolution tunisienne est une révolution sociale qui vient des profondeurs du pays.
Des profondeurs du pays, surtout les régions oubliées, les régions où il n'y a pas de développement.
Quelle est votre situation maintenant aujourd'hui, donc 5 ans ou 2 ans après, comme on voudra? Tu me disais en commençant, au fond, rien n'a changé.
Oui, jusqu'à maintenant, nous sommes sur le point de départ. Donc on continue de revendiquer les mêmes droits de 2008. Ce gouvernement actuel n'est pas intervenu dans la région, n'a rien changé, n'a rien résolu. Donc c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, il y a les sittings. Il y a les manifestations, il y a les assemblées, etc. Et même la CPJ, la compagnie de phosphate, est bloquée totalement actuellement.
La société est bloquée. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas.
Oui, on ne travaille pas. On revendique de nous donner 20% des bénéfices de la compagnie pour le développement dans la région.
D'accord.
Donc c'est notre droit.
L'idée, c'est de consacrer dans le plan de la compagnie une part des bénéfices pour pouvoir s'investir dans la création de nouvelles activités complémentaires ou autour, et pas uniquement les activités minières. Il y a aussi la question de la santé, essayer de développer des investissements dans le domaine sanitaire qui peuvent eux-mêmes créer aussi des emplois, parce qu'il y a des demandes, il y a des maladies qui touchent cette région. Donc l'idée, c'est d'intégrer la région dans le plan de développement de l'entreprise et ne pas simplement se contenter d'extraire le phosphate et de transporter les bénéfices ailleurs que dans la région du bassin minier.
Je ne veux pas de provocations.
Envoyé spécial.
Ces gens-là, ce sont des salafistes.
17 janvier 2013.
Le salafisme, c'est un courant religieux qui prône le retour à l'islam des origines. Tous attendent l'arrivée d'un prédicateur. D'un côté, les femmes, la plupart en niqab. De l'autre, les hommes à la barbe fournie.
L'image qu'on a actuellement de la Tunisie, c'est... On a eu un reportage récemment sur France 2, en envoyé spécial, qui montre des salafistes partout dans le pays. Quoi. Comment tu réagis à ces...
Des salafistes partout dans le pays.
Ce sont des salafistes sans barbe, peut-être.
Si, hein. C'est des salafistes sans barbe.
Je crois que c'est un phénomène qui ne va pas durer longtemps, ce phénomène des salafistes, mais actuellement, ils sont encouragés par le régime, par Nahda, qui ne veut pas les stopper, les arrêter. Donc, il leur ouvre la porte pour continuer la violence, etc., contre les autres.
Alors, il y a cette image-là qui est donnée. Il y a quand même aussi une autre analyse qu'on voit un peu partout. C'est quand même l'UGTT aujourd'hui face à Narda. Il y a aussi ces deux forces qui sont en train de se dessiner. UGTT et autour la société civile, un certain nombre de... un mouvement social, disons, face à Narda qui, indépendamment d'être un mouvement islamiste, entend mener des politiques, tout ce qu'il y a d'ultralibéral, entend aller vers la privatisation, comme ailleurs, conseillé, encadré par le FMI et la Banque mondiale.
Oui, c'est vrai, Narda continue la même politique de Ben Ali.
La même politique économique.
Oui, plus pire encore. Leur programme aussi économique et social n'est pas celui d'une révolution qui a été basée surtout sur le travail et sur la liberté et sur la dignité.
Est-ce que
c'est
tu fais
cela qu'on dit que Narda est une force contre-révolutionnaire, contre la révolution.
تفن يكتب فوق جدار تفن نبتت بين أصابعه النار أيتها الحوذات البيضاء حذر من تفن نبتت بين أصابعه النار من طفل يكتب فوق جدار يكتب بعض الأحجار وبعض الأشجار وبعض الأشعار
C'est l'heure du narguilé là, c'est très sympa. Hein.
Il y a tout un tas de gars, que des hommes.
Bah oui.
On prend le thé, on prend le café, on se fait du bien, il y a un peu de lumière, il y a une très belle lumière d'ailleurs. Hein. Ah, comment on vit en ce moment ici? Comment ça se passe la vie ici?
La situation est très très difficile ici, très compliquée ici en Tunisie.
Vous travaillez, par exemple?
Non, je suis un diplômé chômeur.
Diplômé chômeur.
Mais toi, tu as du boulot? Tu as un travail, toi?
Non, je n'ai pas un travail.
Tu n'as pas de travail? Toi, tu as un travail? Non. Et toi, tu travailles?
Là, il n'y a que des chômeurs autour de nous. Mais c'était déjà le cas avant le départ de Ben Ali. La situation était difficile aussi avant.
La situation est difficile, mais après la révolution, on devient plus difficile. Trouver un travail devient comme un rêve.
La plupart d'entre nous, nous sommes diplômés, nous avons été à l'école, nous sommes instruits. Le chômage est toujours là et nous passons les journées à se regarder les uns les autres. Tous. Personne ne travaille.
L'âge 30 ans.
Je veux savoir, quelqu'un qui a 30 ans, quand est-ce qu'il va travailler? Quand est-ce qu'il va fonder une famille? Quand est-ce qu'il va vivre? On se retrouve à avoir des mauvaises idées, par exemple aller voler, ou alors partir clandestinement, ou alors faire des braquages. Voilà ce qui nous tombe dans la tête au bout d'un moment.
Est-ce que vous avez des copains qui sont partis d'ici, qui sont allés en France, ou qui sont allés en Italie?
Oui.
Un autre son de cloche à Redeyev, un autre son de cloche que celui des syndicalistes, des lutteurs sociaux politisés depuis des années. qui mène cette lutte de fond, qui a eu toutes les conséquences que l'on sait, la révolution en Tunisie, c'est-à-dire, on sait de quoi a été suivie cette révolution tunisienne à travers toute une suite de pays avec des conséquences historiques sur le devenir du monde. Et là, à cette terrasse, là où les garçons sont en train de fumer le narguilé, c'est le désespoir le plus total, mais une confiance, hélas, on peut le regretter, assez limitée dans les capacités de l'UGTT, c'est-à-dire de ce grand syndicat tunisien, comme des partis politiques, à changer les choses, à faire évoluer les choses. Le problème numéro un, en Tunisie comme ailleurs, mais en Tunisie spécialement, si on veut comprendre ce qui se passe, c'est d'abord ça, c'est d'abord là que ça se passe. Il existe, imaginez, une union des diplômés chômeurs. C'est une association, l'union des diplômés chômeurs. En UDC, on pourrait croire que c'est un syndicat, que c'est un parti politique. Non, c'est l'union des diplômés chômeurs. Et beaucoup sont là, autour de notre micro.
Le différence entre l'Ahd Ben Ali et l'Ahd qui est maintenant, c'est que les choses sont claires.
La différence entre l'époque de Ben Ali et l'époque d'après la Révolution, c'est qu'avant les choses étaient claires. Il n'y a pas de boulot, tu peux te casser la tête contre un mur. Alors que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de promesses, mais on ne voit rien dans la réalité. C'est-à-dire, dans tous les cas, avant Ben Ali ou après Ben Ali, casse-toi la tête contre un mur.
La différence, c'est qu'au temps de Ben Ali, on n'aurait pas parlé comme ça tranquillement.
La différence entre avant la révolution et maintenant, c'est qu'avant on était tous unis, on avait une seule revendication, on disait le même mot, et après les gens se sont divisés, chacun parle au nom de son parti, ou bien au nom de son idéologie, nous n'avons plus un mot commun à imposer.
Le mot commun, c'était « dégage ».
Oui, voilà, les choses qui nous unifiaient n'existent plus. Il y a des voix derrière qui disent tout ça c'est à cause du GTT, tout ça c'est à cause du GTT. Monsieur à ma gauche, le jeune à ma gauche, il a dit en fait le problème Ardaïf maintenant c'est que c'est divisé en deux, ceux qui sont avec le GTT et ceux qui sont contre le GTT. Le jeune en face de moi il dit ça s'il te plaît fais-le parvenir. Le monsieur dénommé Adnan, Haji et d'autres personnes...
C'est-à-dire les chefs du syndicat.
Les syndicats et tous les autres gauchistes, ils ne nous représentent pas, Ardaïf. Le jeune à côté de lui, lui dit, voilà la division dont on parlait. Le GTT ici est trop politisé. Je ne défends rien, mais ça, c'est la réalité.
Voilà. Le jeu est assez simple. Le gouvernement isole complètement la région, isole la ville, en disant « Ah oui, mais si vous êtes dans la merde, c'est de la faute à l'UGTT ».
Je veux parler de l'eau, du problème de l'eau. L'eau, elle n'est pas potable. Elle n'est même pas potable par les animaux. Et en fait, les gens la boivent ici. Il y a beaucoup de maladies. Tout le monde est malade à cause de ça, ou des reins, ou de quelque chose. On peut dire 70%.
À cause des phosphates qui sont exploités ici, qui ont contaminé la nappe phréatique et tout l'environnement.
Quand tu vois les dents, tu vois les filles du calcaire.
Et ça fait comment alors?
Comme ça.
Enfin, il demande à sourire. Souris pour voir.
Mais le verre, phosphate, mais je vis.
Addiction de phosphate.
D'accord.
On boit du phosphate, alors on a les dents comme ça, on n'a plus de dents valables.
Ça fait un sourire phosphaté, quoi.
Abîmer même notre sourire.
Qu'est-ce que vous pouvez faire contre tout ça? Vous allez vous bouger quand même. Vous n'allez pas être des victimes comme ça toute votre vie.
Pour ce gouvernement-là et celui d'après, celui d'après. Si jamais on avait une part dans les bénéfices de la société de phosphate, eh bien rien que l'infrastructure, elle serait beaucoup mieux que ça. Regardez comment c'est maintenant.
Non, parce qu'on s'est installé, il y avait 5-6 personnes et maintenant il y a 50 personnes qui sont en train de débattre sur la terrasse.
Il y a de l'énergie dans l'air là.
Ouais, complètement, ça va dans tous les sens. Donc l'ami en face, il dit, déjà après la révolte de 2008, ils sont venus, ils ont dit, allez, on va faire un projet, ils ont construit un grand bâtiment là-bas, et puis c'est tout. Ils ont dit, on va ouvrir une usine ici, en fait, il n'y a rien, il y a un bâtiment vide.
Il y a juste les murs.
Tout ce qui le préoccupe, c'est le boulot, hein. Le message est clair. OK.
Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.
Merci. Bon courage.
Merci. Merci. Bon courage.
اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه النبي اللي نحبه اللهم صل عليه خير الخلق كلهم اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه محمد زين الرسالة اللهم صل عليه هو لينا الشفيع اللهم صل عليه يا الله يا الله ليحضروا هذه الحضرة يا
هذا سيك؟
وي
سيك سكر عمك وحدك
اوبا
حياة بن عمار
حياة
حياة
داكور Est-ce qu'on commence à y être, qu'on commence à savoir de cette histoire, ce qui est très impressionnant, c'est la révolte des femmes dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez raconter ça? Vous y étiez?
ايه انا من بين النساء معناها اللي ساهمت في الحراك الاجتماعي اللي وقع في 2008
oui moi je fais partie des femmes du mouvement social de 2008 et ce mouvement des femmes s'est fait de façon spontanée
وقتاش خرجوا في ابريل
La manifestation des femmes est sortie le 8 avril 2008 et c'était suite à un assaut policier dans les maisons la veille. Donc il y a eu des descentes policières, ils ont voulu nous faire plier par la police, donc ils ont choisi la solution sécuritaire. Et donc les policiers ont fait des descentes dans les maisons des syndicalistes qui participaient au mouvement et ils les ont tous arrêtés, ils les ont attrapés. Du coup, forcément, chacune qui apprenait que dans telle maison, ils ont fait une descente. Le lendemain, les femmes sont sorties spontanément et on s'est retrouvées très nombreuses dehors. De façon spontanée, on n'avait pas organisé.
C'est quand même assez exceptionnel, une manifestation de femmes en Tunisie, non ?
Oui,
même à Ardaïf, c'était une première. Et la première fois que les femmes sortent de façon aussi massive, et cette manifestation massive a réussi à mettre assez de pression sur le système de Ben Ali pour libérer les prisonniers.
Les hommes ont été libérés, du coup,
Oui.
24 heures plus tard, les hommes ont été libérés.
23 octobre 2011, les élections. Qu'est-ce que ça a donné ici ?
Les résultats ont été étonnants parce que Nahda a eu la majorité des voix, 48 à 49%, et nous sommes restés tous étonnés parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Nahda n'a pas de place à Ardaïf.
Comment expliquer ici, dans ce bastion du syndicalisme, du syndicat UGTT, du mouvement social, ce soir Narda, qui arrive très largement en tête. Comment expliquer ça concernant les élections d'octobre
2011 ?
Je disais donc que Narda n'a pas de place à Ardaïf, et c'est vrai, parce que par exemple en 2008, ils n'ont participé en rien du tout au mouvement. Et par contre, ce qui s'est passé, je pense, en octobre 2011, c'est ce qui a été dit dans les mosquées qui a fait qu'ils ont gagné. Il y a eu tous les imams des mosquées qui ont dit aux gens il vaut mieux voter pour quelqu'un qui ne soit pas mécréant, le jour où vous allez être au jugement dernier, Dieu va vous demander à qui...
Pour qui vous avez voté ?
Pour qui vous avez voté ?
Il est curieux.
La majorité, je vous donne une information, c'est que le 23 octobre, à la soirée,
et donc les gens qui ont voté, ce sont des simples gens un peu pieux à qui on a monté la tête en leur faisant peur. Il vaut mieux voter pour quelqu'un qui craint Dieu, c'est une histoire de religion.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ?
Ardaïf ?
Oui.
Il ne change rien. والله تو ولنا زوز اعداء
maintenant nous avons deux ennemis
نهضه اي ار سي دي
نهضه اي لو ار سي دي
Ce que vous nous dites, c'est qu'ici, actuellement, depuis les élections, vous êtes complètement livré à vous-même. Les 30 000 habitants de Redeyev sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'administration.
Il n'y a pas de mairie.
Il n'y a pas de mairie. Comment expliquer ça? D'abord, comment vous faites pour vous gérer et vous organiser vous-même? Et pourquoi est-ce que le gouvernement vous abandonne, en somme, alors que vous avez élu une majorité Narda?
Alors, par rapport à comment on gère nos affaires, bon, déjà, il n'y a pas de police, il n'y a quasiment pas d'autorité.
C'est 30 000 habitants, quand même, hein, c'est pas un village.
Et c'est nous qui nous surveillons nous-mêmes, il y a des petits comités, on s'auto-surveille et on arrive à se gérer. Après le 14 janvier, on a carrément mis des comités de sécurité dans les quartiers, des groupes de jeunes avec des bâtons, des armes quelconques, et puis on s'appelait par téléphone pour savoir s'il n'y a pas un problème.
Voilà, on finit avec les femmes qui ont été à l'origine donc, de cette lutte héroïque des mineurs et des habitants de Redeyev. Merci à tous. C'était Tunisie, assassinat d'une démocrate, Chokri Belaïd, avec Guy Ventil et Anaël Verzo. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter et également sur le site labas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Lucie Hakoun et Chloé Sanchez, préparée par Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37, à la technique Fabien Laléouze et Renan Mahé. Réclame.